Qu'est-ce que vous, vous attendez du 7 mars et de la suite? Que voulez-vous qu'il advienne?
C'est-à-dire que ça fait maintenant des mois qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme. 9 salariés sur 10. On a tous les syndicats unis qui disent non. On a une, deux, trois manifestations avec 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non à cette réforme. Apparemment, tout ça, le président de Macron, Elisabeth Borne, ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, on en est là, parce qu'on aurait souhaité ne pas en arriver là. Malheureusement, on en est là. Qu'est-ce qui est, que Mme Borne va écouter? Qu'est-ce que M. Macron va écouter? Je pense que si c'est le patron d'Amazon qui a un siège, un site à Boves, près de chez moi, si c'est le patron de Procter & Gamble, si c'est le patron de Dunlop qui prennent leur téléphone et qui disent « Écoutez, M. Macron, il y en a marre, arrêtez vos bêtises, remettez la France au travail et qu'on produise ensemble », eh bien, je pense que M. Macron, malheureusement, aujourd'hui, il est plus à même d'écouter Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à qui il a remis la Légion d'honneur, que d'écouter les Français qui travaillent. Et quelle est cette France aujourd'hui?
Eh bien, justement, parce que vous serez aux côtés d'elle, François Ruffin, demain, dans la Somme, dans les ronds-points, comme vous le faites à chaque mobilisation. Quelle est cette France, justement, que vous voyez?
Je sais qui sera là sur les ronds-points. Enfin, je me souviens, le 19 janvier, il y avait une aide-soignante qui manifestait pour la première fois en 33 ans et qui était sur le rond-point dès 4h du matin pour distribuer des tracts, parce qu'elle se disait, bon sang, à 53 ans, moi je suis sous morphine quand je vais au travail parce que j'ai mal dans mon corps. Et puis les ouvriers de Dunlop, c'est pareil, qui se lèvent à 4h du matin, qui inversent le jour et la nuit, pour qui c'est bien compliqué, se demandent comment ils vont prendre 2 années de plus. Vous savez, moi je suis avec mon petit simulateur sur mon téléphone portable, je croise une femme de ménage qui a 53 ans, qui a mal au dos, qui a des problèmes d'un doigt qui a été sectionné par une porte et ainsi de suite. Donc déjà, son corps il est un peu endolori. Je prends mon simulateur, et ben à la place de partir à 62 ans, ça sera 63 ans et 3 mois. Et donc c'est 1 an et 3 mois de douleur en plus si jamais elle parvient à atteindre cet âge-là. Je dis, moi, la France qui manifeste, là, c'est une France qui se lève tôt, c'est une France qui va au boulot, c'est une France qui prend son auto et c'est une France qui a mal au dos. Cette France-là, je pense qu'elle mérite le respect. Et demain, pour moi, au-delà de la demande sur les retraites, il y a les demandes sur les salaires aussi.
Voilà. C'était ma question.
Mais
oui.
Il y a une demande de fierté. C'est une work pride aussi. C'est une marche de la fierté demain aussi.
Pourquoi?
Le président de la République est le président de ces Français-là.
Qui méprise? Il y a une forme de mépris, selon vous, c'est ce que vous dites? On ne tient pas compte de cette dignité, justement? On marche sur une forme de fierté à travailler.
C'est évident. Enfin, ils ont la valeur travail dans les mots, mais ils l'écrasent tous les jours dans les faits. Qu'est-ce qui se passe? Dans le cœur de la crise Covid, le président de la République, il promettait à cette deuxième ligne reconnaissance et rémunération. Et il disait, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc il y avait des grandes promesses pour les agents d'entretien, les auxiliaires de vie, les camionneurs. Il y a eu 17 professions identifiées comme étant de la deuxième ligne, 5 millions de salariés dont on savait qu'ils étaient moins payés, qu'ils étaient plus précaires, qu'ils avaient des horaires instables, qu'il y avait tout ça qui n'allait pas, mais qu'ils avaient un grand sentiment d'utilité. 5 millions de travailleurs. Mais qu'est-ce qui a été fait pour eux? Rien. Au contraire, il y a eu une première peine. La première peine, c'est l'inflation. L'inflation qui est devenue rogner leur petit salaire et on n'a pas décidé d'indexer leur salaire sur l'inflation. Donc ça, c'est la première peine. Avec là, on en parlera peut-être, mais 14% d'augmentation des produits de l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, deuxième peine, c'est à eux les premiers qui ont souvent commencé à travailler tôt qu'on rajoute les 2 années de boulot supplémentaire. Eh bien, à la place d'avoir la reconnaissance et la rémunération, il y a la double peine pour cette France-là. Donc la valeur travail, c'est pas un truc qui se manipule dans les mots. C'est de la reconnaissance, c'est de la rémunération et c'est pour moi simplement, vous savez, je viens, je porte quelque chose de bon sens et de décence qui est très simple.
De bon sens, vous employez le mot aussi?
Oui, moi je
comme
suis...
Comme le président de la République, parce que chacun son bon sens, François Ruffin.
Lui, il a le bon sens du CAC 40. Moi, j'ai le bon sens des gens que je vais croiser demain et que je croise tous les jours. C'est quoi? C'est les Français doivent vivre de leur travail. Leur travail présent, c'est le salaire. Leur travail passé, c'est la retraite.
C'est très, très important ce que vous dites avec cet attachement au travail. Mais alors, si on met la France à genoux, est-ce qu'on ne tire pas une balle, pardonnez-moi l'expression, dans le pied de cette France-là qui travaille, qui se lève tôt?
D'abord,
et qui a mal au dos?
D'abord, moi, mon objectif, c'est de remettre la France debout. Et elle n'est pas debout sur plein de secteurs. Quand on a dans l'école des enseignants qui sont recrutés en job dating, quand on a un hôpital qui est en lambeaux, quand on a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, quand on a des centrales nucléaires où on manque de soudeurs pour les réparer, on voit très bien qu'on a aujourd'hui une France qui a besoin d'être remise debout. Et justement, qu'est-ce que c'était que la priorité du président de la République? Qu'est-ce que ça devait être sa grande ambition réformatrice? Ça devait être sur tout ça. Ça devait pas être sur aller rajouter 2 années de plus aux Français. Et donc là, quand même, pour remettre les gens face à leurs responsabilités, le gouvernement, il a eu des tas d'avertissements. Il y a eu des avertissements avec des manifestations récurrentes, avec des syndicats qui, tous unis, lui ont dit non. Ça fait des mois et des mois que c'est clair. Donc tout le monde regrette qu'on doive en arriver là, mais maintenant, oui, il faut mettre la France à l'arrêt.
Et le gouvernement vous oppose, François Ruffin, la légitimité démocratique, évidemment, d'un président, et même la légitimité parlementaire. Si la réforme est adoptée demain au Parlement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera terminé ou alors le match ne sera pas plié?
Vous savez, je dis que dans un temps où la France a été blessée par la crise Covid, derrière par la guerre en Ukraine, les factures d'énergie qui bondissent dans tous les sens, mais je veux dire aussi l'état démocratique du pays. On a un président qui a été réélu entraînant un peu la patte, quoi. Ça a été dur pour lui. Sans élan, sans panache. Derrière, on a une majorité de dracros à l'Assemblée nationale, très, 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 très relative. Dans un coin comme le mien, la Somme, c'est pas un hasard si ça se bouge. Il a réussi à faire réélire qu'une députée sur cinq circonscriptions, il n'a qu'une députée. Et c'est sur cette base sociale extrêmement réduite qu'il aspire à venir passer une réforme contre le corps social, contre les deux tiers du corps.